expérimentation. Je souligne que vous avez voulu la soutenir quand vous étiez aux commandes de la DGESCO, et puis maintenant va être mis en place un nouveau conseil pour l'innovation à l'école. Ce sera bientôt, on l'attend. Nathalie Mons, vous qui avez aussi copiloté avec Christian Forestier la concertation pour l'école, vous qui êtes universitaire, vous qui avez travaillé beaucoup sur PISA, je voudrais revenir avec vous sur ces constats qu'on peut partager concernant les problèmes de l'éducation nationale en France, concernant les problèmes de performance des élèves, mais peut-être pas seulement concernant la performance.
Oui, je crois qu'on est revenu, vous êtes tous les deux revenus déjà sur le bilan avec cette rupture des années 2000 qui nous montre que finalement on n'est pas dans un système idéal en France. Alors, je vous rassure, on a fait une recherche sur la réception de PISA dans différents pays européens. On s'est rendu compte que dans de nombreux pays, on pensait aussi qu'on avait le meilleur système éducatif. Donc, il n'y avait pas qu'en France que on avait ce sentiment. Mais finalement, ce diagnostic, il s'est construit peu à pas, peu à peu. Et je crois que la concertation, ça a été aussi une étape importante en ce sens où, évidemment, je ne reviens pas, et puis Michel Quéré va le développer, sur le problème des résultats scolaires, ça, avec ses PISA, ses PIRLS. Donc là, on mesure les apprentissages des élèves avec des outils qui peuvent être qualifiés de scientifiques. Mais je crois que ce qu'a vraiment apporté la concertation, c'est des compléments par rapport à ce diagnostic et des compléments qui relèvent pas uniquement justement d'une vision scientifique de faits objectifs, mais finalement d'éléments tout à fait subjectifs, mais qui sont très importants dans l'école. C'est-à-dire qu'on est allé dans la concertation au-delà de certains tabous. On a pu parler, par exemple, de mal-être, qui concerne pas seulement les élèves en difficulté, mais aussi les élèves qui sont lancés dans les meilleurs cursus et dans parce qu'ils se destinent à intégrer l'élite scolaire et l'élite sociale, donc des niveaux d'anxiété importants. Alors, c'est vrai qu'ils sont mesurés dans PISA, mais en France, on avait plus ou moins osé le dire. Alors, j'ai pris quelques chiffres qu'on avait intégrés dans le rapport. Par exemple, sur le sentiment de bien-être à l'école. En France, on a 45% des élèves qui nous disent, à 15 ans, dans PISA 2009, l'école est un endroit où je me sens bien. 85% en moyenne dans l'OCDE. Donc il y a un écart qui est considérable. Pour les problèmes aussi d'anxiété par rapport à certaines disciplines, en particulier en mathématiques, la PISA 2003, on a 53% des élèves français qui nous disent « je suis tendu quand je vais faire des devoirs en mathématiques ». C'est 29% dans l'OCDE et c'est 7% en Finlande. Donc ces éléments, ils relèvent clairement de la perception d'élèves, du subjectif, mais je pense qu'ils font aussi partie de ce diagnostic nouveau qui a été posé sur l'école. On a aussi parlé, là aussi ça a relevé de certains tabous, de certaines formes d'inégalités dont on avait peu parlé. Alors on parle beaucoup d'inégalités sociales, là vous l'avez cité, inégalité filles, garçons, etc. Mais il y a une inégalité dont on parle assez peu parce que justement ça bouleverse le tabou de la République une et indivisible, c'est les inégalités territoriales. Or ça aussi, ça doit faire partie de notre bilan. C'est-à-dire que quand on regarde notre système éducatif, on doit se dire maintenant que partout, on n'a pas les mêmes contextes d'apprentissage. Donc je crois que ce bilan, finalement, il s'est affiné. Et la concertation a été un temps fort parce qu'on a pu réunir un ensemble d'acteurs qui ont dépassé certains tabous et qui ont posé des éléments nouveaux sur le diagnostic. Alors après, sur les solutions, mais je pense que ça appartiendra à d'autres tables. Il y a énormément d'éléments qui ont été mis en avant. Alors, on reviendra, mais Christian l'a déjà cité, le primaire, la révolution pédagogique nécessaire, la formation des enseignants, l'orientation, la lutte contre les décrochages, le numérique a été présenté cet après-midi, tout ce qui est développement d'évaluation plus cohérente, etc., etc. Mais je dirais de façon un peu provocante qu'aujourd'hui, dans la réflexion sur les politiques publiques, On en est arrivé à un stade, parce qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites, il y a des expérimentations, oui, qui sont faites dans d'autres pays. On en est arrivé à un stade où, finalement, on sait un petit peu ce qu'il faut faire en termes de politique publique. Et la grande question, je crois que les deux derniers mois nous l'ont clairement montré, la grande question, c'est comment, surtout, on fait changer le système. C'est-à-dire comment on intègre dans la réforme l'ensemble des acteurs qui sont des acteurs de terrain. Alors nous, en éducation, c'est les enseignants, les personnels d'encadrement, quel que soit le niveau. Parce que finalement, si ces gens ne font rien, hein, il y a des problèmes d'ineffectivité très importants en politique publique et particulièrement en éducation. Donc si ces gens ne font rien, eh ben, on a beau dessiner un dispositif qui est fondamental et qui est magnifique au niveau national, ben, il ne se passera rien de fait dans les classes. Donc ça nous amène à nous poser la question de comment on fait bouger le système. Et là, je voulais vous soumettre, mais ce sera peut-être aussi l'objet de discussion, hein, trois éléments qui me paraissent vraiment importants. Alors, il y en a le premier, vous êtes tous les deux, c'est intéressant, intervenus sur le sujet, c'est prendre le temps au sérieux. C'est-à-dire accepter une temporalité longue, se donner le temps. Alors, vous l'avez décliné de différentes façons tous les deux, en parlant de consensus sur le long terme. C'est vrai qu'on voit que les pays qui réussissent le mieux sont des pays qui construisent des consensus sur le long terme, c'est-à-dire que les politiques éducatives ne dépendent pas des alternances. Donc, on a des objectifs de long terme. Et c'est comme ça, finalement, qu'on construit et qu'on engage les acteurs de terrain. Ça veut dire donc qu'on dessine vraiment des perspectives de long terme. Mais prendre le temps au sérieux, c'est aussi se dire que ben, finalement, les acteurs de terrain, c'est normal qu'ils prennent du temps pour bouger. Hein, c'est accepter qu'on ne soit plus dans cette vision enchantée de la politique où on imagine qu'on prend des décisions nationales et puis après les gens vont de façon mécanique appliquer ça. Bon, ça, en sociologie, ça fait à peu près 4 décennies qu'on a montré de façon empirique que ben, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces acteurs, il faut leur laisser du temps parce que finalement, il n'y a aucune raison qu'ils se mettent à bouger et entrer dans une réforme. C'est extrêmement coûteux pour un acteur de terrain. C'est coûteux en termes de temps. Si vous avez un nouveau programme à mettre en place, c'est coûteux parce que vous allez... devoir y passer davantage de temps, refaire votre cours, vous concerter peut-être avec des collègues, etc. Donc, la réforme est coûteuse. Et donc, il faut laisser du temps aux acteurs. Et les deux autres points, rapidement, je crois que pour pouvoir engager les acteurs dans les réformes, il faut aussi cofabriquer les réformes. Hein. En France, on reste vraiment sur un modèle qui demeure assez top-down. Et je crois que bon, la concertation a montré qu'on pouvait réunir des acteurs et puis fabriquer un début de consensus. On en voit aussi les limites après. Hein, il y a aussi des syndicats qui disent bah, on a dit oui dans le cadre de la concertation, mais finalement, hein, ce n'était pas vraiment sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on part aussi des besoins, des attentes, des peurs, des craintes de ces acteurs de terrain, lorsqu'on leur demande leurs idées, ben, on a plus de chances finalement de construire une action publique efficace. Et puis, je terminerai par le dernier point, et ça rejoint finalement aussi ce que Jean-Michel Blanquer a dit. Il faut essayer de ne pas faire quelque chose toujours de définitif en matière de politique publique. Là encore, c'est un des travers français, hein, c'est hérité évidemment de d'une tradition législative forte où tout est imposé par la loi. Et puis donc, on essaye de créer un contexte juridique à la fois idéal et quasiment définitif. Et puis après, finalement, c'est pas mis en place. Et là, c'est vrai que tout ce qui est mise en place progressive, expérimentation, évaluation, mise en charge progressive des dispositifs, tout ça est très bénéfique, je crois, pour pouvoir développer une action publique efficace.